Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Soir Info vous accompagne tous les soirs jusqu'à minuit. José Pérez est parmi nous ce soir. Bonsoir Monsieur Pérez, merci d'être présent, co-président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Votre visage, on commence à le connaître. Hein. C'est vrai que vous êtes l'une des figures de la colère agricole depuis de longues semaines maintenant. Vous avez de longues journées, donc merci de vous être laissé convaincre de nous accompagner ce soir. On va évidemment dans la première partie parler avec vous de cette crise et de ce salon de l'agriculture qui a entamé cette troisième journée aujourd'hui. Karima Brick de la rédaction est avec nous. Bonsoir Karima, bonsoir Yohann Uzaï.
Bonsoir Yohann
Uzaï, c'est mieux comme ça, du service politique. De l'autre côté, Gabriel Cluzel, merci d'être présent, journaliste, tout comme notre ami Raphaël Steinville. Merci d'être présent. Et puis François Calfon, conseiller régional du Parti Socialiste, qui est avec nous également. Bonsoir, cher François Calfon. Le Salon de l'Agriculture, entrons de plein pied dans cette thématique, a retrouvé un peu de quiétude. Donc aujourd'hui, après une inauguration chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire, par le président de la République samedi, hier, changement d'ambiance radicale avec l'avenue de Jordan Bardella, particulièrement bien accueilli par les exploitants agricoles. Le président du RN de retour aujourd'hui pour poursuivre les déambulations auprès des exploitants. Le défilé politique d'une manière générale va se poursuivre tout au long de la semaine avec notamment la venue du Premier ministre demain, Gabriel Attal, qui sera sur place porte de Versailles dès 7h du matin. Le point sur cette nouvelle journée avant d'en discuter ensemble avec Thomas Bonnet.
Troisième journée pour le Salon de l'Agriculture et un nouveau défilé pour les hommes et les femmes politiques. Trois têtes de liste pour les élections européennes ont notamment fait le déplacement ce lundi. Jordan Bardella pour son deuxième jour consécutif, mais aussi Manon Aubry de la France Insoumise et François-Xavier Bellamy pour les Républicains. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques se sont également succédés ici devant le stand de la coordination rurale, l'un des syndicats agricoles. Par exemple, on a vu Olivier Faure, Nicolas Dupont-Aignan ou encore justement Manon Aubry et Jordan Bardella. Et quand les hommes ou les femmes politiques ne s'arrêtent pas sur les stands des syndicats, ce sont les syndicats qui viennent à eux. C'est par exemple ce qui s'est passé lors de la visite de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui s'est rendu dans le hall 4, le très institutionnel hall 4, pour une réunion de travail avec les représentants des filières. L'attendaient à ce moment-là des représentants de la coordination rurale du Lot-et-Garonne qui ont finalement obtenu un entretien en tête-à-tête avec le ministre de l'économie. La preuve que les membres du gouvernement sont interpellés par les éleveurs et par les représentants syndicaux. On verra quel accueil sera réservé au Premier ministre Gabriel Attal qui doit se rendre au Salon de l'Agriculture ce mardi à partir de 7h.
José Pérez, il y a évidemment beaucoup de choses à aborder avec vous ce soir. D'abord sur la forme, ce salon qui a commencé il y a 3 jours, on a un peu l'impression quand même que plus les heures passent, plus les politiques confisquent ce salon aux agriculteurs. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, que finalement on parle de moins en moins du fond de vos problèmes, mais on commente l'actualité politique et ces batailles politiques à distance entre les stands?
Parfaitement, ouais, c'est exactement ça. On ne parle plus du tout des sujets agricoles. Aujourd'hui, le salon d'agriculture est devenu un salon aux préparations des élections européennes et on a oublié tous les débats agricoles, toutes les choses pour lesquelles nous sommes là, pour lesquelles nous nous battons depuis un mois.
Justement, je voudrais que nous profitions, j'y arrive, de ces quelques minutes d'abord en début d'émission pour évoquer le fond des problèmes, parce que vous avez rencontré donc ces derniers jours le président de la République qui s'est engagé à recevoir dans 3 semaines les organisations syndicales pour répondre à leurs craintes. Il a promis l'instauration notamment d'un plan d'urgence de trésorerie et de ses prix planchers. Les prix planchers, c'est une question qui est beaucoup discutée ces dernières heures depuis l'annonce du président, parce que cette question elle avait d'abord été rejetée dans un premier temps par le gouvernement. Et elle est beaucoup discutée parce que c'est bien sur le principe, a priori, mais comment on fait ça? Personne n'a la réponse. Un prix plancher européen est évoqué également. Est-ce que déjà l'idée du prix plancher vous convient? Et si oui, comment est-ce qu'on peut la mettre en place? Est-ce que c'est la solution, un début de solution et de réponse à votre souffrance et à vos problèmes?
Le prix plancher peut être une bonne solution à la condition que ça reste vraiment un prix minimum dans lequel les agriculteurs ne puissent pas être payés en dessous, quoi. Il ne faut pas que ça devienne le prix auquel on va payer la production aux agriculteurs. Il ne faut pas rentrer dans ce piège-là, quoi.
Il ne faut pas que ce soit un prix fixe, en voilà, fait. Que ce soit un prix minimum, fixe. Mais pas fixe.
Tout à fait, voilà.
C'est le comment on fait concrètement? Est-ce que vous avez une idée de la façon dont on peut... Par exemple, il y a des exploitants qui, selon la région où ils habitent, n'ont pas les mêmes frais de production, selon la matière qu'ils travaillent également. Comment on peut créer des prix planchers, sachant qu'il y a autant de coûts de production que d'agriculteurs, quasiment?
Ça va être très compliqué à mettre en place. Alors, peut-être sur des filières arbo en fruits, peut-être filière fruits et légumes, c'est peut-être plus facile à mettre en place, mais des filières élevage ou autres, en fonction des régions, c'est pas du tout la même chose. Donc ça va être assez compliqué à mettre en place. Bon, je sais pas après.
Qu'est-ce qui vous donnerait le sourire aujourd'hui?
Que l'on reparte du salon de l'agriculture avec des mesures fortes, en se disant demain, on va repartir, on va gagner notre vie. On va travailler, ok, mais...
Les prix planchers, la trésorerie, ça ne fait pas partie des mesures fortes qui vous donneraient le sourire?
Bien sûr que si, avoir un prix minimum et avoir la trésorerie pour pouvoir repartir là demain, travailler sur...
Ça veut dire que ce soir, la confiance, elle n'est pas complètement rompue avec l'exécutif, avec le gouvernement, avec le chef de l'État. Vous me dites que ces dernières propositions, elles sont convenables. Maintenant, si elles sont appliquées et que tout ça va dans le bon sens dans les prochains jours, ça peut être en effet un début de fin de crise ou...
Tout à fait, ça peut être un début de fin de crise. Aujourd'hui, Monsieur le maire est venu à notre rencontre.
Bruno Le Maire.
Oui, Bruno Le Maire, oui. Il a répondu à la demande que nous avons émise depuis le premier jour de nos revendications, qui était un plan de trésorerie. Il nous parle d'un plan plutôt sur style PGE, quoi, un emprunt à
pré-garanti.
Pré-garanti par l'État, mais avec des taux le plus bas possible. Bon, on lui a dit que c'était une solution, peut-être une solution, mais enfin, que les reports d'un cours en fin de tableau, ça pouvait être une autre bonne solution. Et on lui a mis l'hypothèse de pourquoi pas laisser le choix aux agriculteurs et de partir sur les deux hypothèses. Peut-être un PGE pour les gens qui sont peut-être plutôt en fin de carrière, qui sont pas trop chargés en crédit et qui veulent pas trop réinvestir derrière, parce que le problème de refaire un emprunt, c'est que quand vous êtes jeune et si derrière vous voulez refaire un emprunt, vous vous rechargez encore plus. D'où là l'idée plutôt partir sur un report d'un cours bancaire en fin de tableau, quoi. Vous voyez, on a mis vraiment les deux solutions pour voilà, que chaque agriculteur ait le choix et la liberté de prendre l'option qu'il voudra, quoi.
On a noté, pour conclure sur ces prix planchers, vous voyez en bas de votre écran la volte-face de l'exécutif, parce que c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de mal à comprendre quel est le cap, quelle est la vision de l'exécutif, du chef de l'État. Je voudrais juste que vous entendiez deux extraits. L'un de Marc Fesneau le 27 janvier, donc il y a à peine un petit mois, et puis l'autre d'Emmanuel Macron samedi concernant donc cette question des prix planchers.
Les propositions démagogiques du genre « on va fixer une obligation de prix plancher » comme on peut le faire, parce qu'il y a des règles quand même européennes, que sur les prix agricoles français et qu'on ne peut pas le faire sur les prix des autres pays, qu'est-ce que ça fait? Ça vient mettre en concurrence déloyale les produits agricoles français. Donc il faut que la matière première elle soit payée aux paysans français comme elle doit être payée aux autres agriculteurs. Et c'est comme ça qu'on arrivera à le faire et pas autrement.
Il y aura un prix minimum, un prix plancher. C'est-à-dire que l'indicateur qui est défini dans une filière, on va repartir sur la construction du prix de l'avant, ce sera un prix plancher en dessous duquel le transformateur ne peut pas l'acheter et donc en dessous duquel, après derrière, le distributeur ne peut pas vendre.
Ben voilà. Tout est son contraire.
Donc, si j'ai bienvenue
en Macronie. Après,
Macron,
si ça profite aux agriculteurs, très bien. Mais
Macron est démagogique. Bon, c'est intéressant, mais c'est un peu curieux de la part d'un ministre. C'est vrai qu'on ne comprend pas très bien. Alors, les prix planchers, vous l'avez expliqué, il ne faut pas que ça devienne des prix plafonds. Exactement, parce que...
Mais c'est un casse-tête à mettre en place, franchement.
Exactement. Il va se dire, bah, écoutez, puisque c'est le prix, eh ben, n'allons pas au-delà. Donc, on sait bien que ce n'est pas la panacée non plus. Mais ce qui est surtout curieux, au-delà du fond, que vous connaissez mieux que moi, c'est surtout cette espèce d'ambivalence permanente. Là, c'est le « en même temps pousse à son paroxysme » qui frise évidemment le grand n'importe quoi et qui surtout plonge dans une inquiétude, parce que ça fait une incertitude sur la suite. Comment pouvez-vous accorder le moindre crédit à tout et son contraire dit avec le même aplomb, en réalité. Et je crois que c'est ça qui rend très difficile aujourd'hui la politique du gouvernement.
Bon, François Calfon.
Sur les prix planchers, donc j'en rajouterai pas, mais en même temps la porte de Versailles, en même temps Bruxelles. C'est-à-dire qu'à la porte de Versailles, on est avec les agriculteurs. Et puis à Bruxelles, qu'est-ce qu'on vote ? On vote une PAC qui profite à 20% des agriculteurs et qui n'est pas basée sur finalement la main-d'œuvre agricole, c'est-à-dire l'agriculture paysanne. Et on vote tous les traités de libre-échange. Et moi, j'ai fait attention à la déambulation.
Il s'est engagé là-dessus lors du mini-débat Emmanuel Macron samedi.
On exportait 2/3 de notre production et qu'il fallait pas.
Il s'est engagé à vous défendre, à défendre les agriculteurs à Bruxelles et il y a une clause de revoyure dans 3 semaines.
La vérité, c'est que cette PAC-là qui ne profite pas à l'agriculture paysanne, elle a été votée, et pardon de le dire, parce qu'il n'y a pas non plus l'unité agricole, elle a été conçue par la FNSEA pour les céréaliers, certainement pas pour les paysans finalement du Lot-et-Garonne et autres si affinités. Et puis on continue à voter tous les traités de libre-échange. Il n'y a pas de clause miroir. Donc sur les tracteurs, c'est marqué en gros, quelle que soit la région, pourquoi on importe ce qui est interdit chez nous. Mmh. L'hypocrisie macroniste qui n'a pas été dénoncée, y compris par son propre camp, ça pour le coup, il a pas dit qu'il arrêtait les traités de libre-échange, c'est qu'en fait, il continue dans cette logique d'agro-industrie, de libre-échange, qui tue nos agriculteurs.
José Pérez, vos problèmes principaux, ils sont réglables à Paris ou à Bruxelles ?
Alors moi, je pense qu'ils sont réglables à Bruxelles. Bah oui. C'est Bruxelles qui va régler les problèmes.
En fait, c'est pas un contexte national, c'est un contexte européen, on le comprend tous.
Aujourd'hui, le président de la République s'engage sur plein de choses. Je pense qu'une partie ou une grosse majorité ne pourront pas être réglées à Paris directement. Ils seront retoqués par Bruxelles. Dès qu'il les mettra en place.
Les images que vous avez sous les yeux, envoyées il y a quelques secondes, ce sont donc ces images de heurts, de tensions fortes entre des agriculteurs et les forces de l'ordre. Vous le voyez aujourd'hui à Bruxelles. Johan, il est urgent en effet que les agriculteurs se fassent entendre au niveau européen. Les réponses franco-françaises, elles sont bonnes. Ils attendent de voir. Ils se revoient tous dans 3 semaines à la maison. Ce sont les mots du chef de l'État hier à l'Élysée. Mais il faut qu'Emmanuel Macron montre également de la bonne volonté et qu'il se renie d'une certaine façon politiquement en allant dans le sens des agriculteurs auprès des instances européennes.
Oui, mais il n'est pas seul à décider. Parce que je vous rappelle qu'en Europe, nous sommes 27.
Oui, mais il y a un moment, si la France fait pression, elle a peut-être un peu plus de poids. Et je ne vais pas insulter d'autres pays, mais on va dire que la France et l'Allemagne pèsent quand même beaucoup plus que les 25 autres États dans l'Union européenne. Mais
précisément, l'Allemagne est très favorable au traité du Mercosur, notamment. Et là, il y a une vraie
différence. C'est eux qui vendent des voitures.
Les agriculteurs allemands sont favorables au Mercosur. Il n'y a pas le même genre de... Sauf que les exploitants allemands peuvent aussi mettre la pression sur leur...
Je vous parle du gouvernement allemand qui est très favorable à ce traité-là parce qu'il considère que ça profitera à son économie. Donc là, il y a une véritable divergence avec la France. Emmanuel Macron voudrait effectivement sortir l'agriculture de ce traité de libre-échange-là, ou en tout cas instaurer des clauses miroirs, mais ça ne se décide pas tout seul. Il peut essayer de faire pression naturellement. Il y a des élections européennes qui arrivent dans 3 mois. Tout ça n'est pas favorable aux agriculteurs parce que la Commission européenne, Ursula von der Leyen, attendent aussi de voir ce qui va sortir de ces élections européennes. Donc on est dans un contexte qui est extrêmement difficile en ce moment et le président de la République peut difficilement s'engager sur des choses qu'il ne maîtrise pas. Vous dire non, effectivement, on ne signera jamais le traité du Mercosur, il ne peut absolument pas le garantir aujourd'hui. Ce serait mentir aux agriculteurs de dire cela, à l'évidence.
José Pérez.
Oui, il ne peut pas s'engager, on est bien d'accord. Aujourd'hui, c'est un traité européen.
Pardon, mais vous ne seriez pas plus inspiré d'aller vous rendre à Bruxelles, manifester avec les gens qui sont là-bas plutôt qu'au sein de l'agriculture à Paris.
C'est peut-être la prochaine étape. Si on n'obtient rien, ça sera la prochaine étape. Elle est déjà dans nos têtes, on en parle déjà. Aujourd'hui, on a manifesté chez nous en France en espérant avoir un résultat, un retour.
Qu'est-ce que vous voudriez mettre en place à Bruxelles À quoi pensez-vous
La chose qu'il faudrait aujourd'hui, c'est avoir la même réglementation partout en Europe.
Et c'est ça qui vous tue, en fait.
C'est ça qui nous tue. Et on est en Europe, pourquoi on n'a pas les mêmes règles ? C'est tout. Appliquons les mêmes règles. En France, on a les règles européennes, plus, quoi.
Oui, c'est tout. Donc ça dépend du gouvernement français. La surtransposition, par exemple, les 300 substances phyto là, qui existent dans l'Union européenne, quand il y en a 450 en France, qui plombent en fait la France, ça c'est un problème français.
On a fait du zèle.
Il y a autre chose.
Raphaël Stainville.
À cette surtransposition des normes européennes, il y a la distorsion sociale entre les pays de l'Union européenne. Mais ça, c'est pour lorsque l'on parle seulement du marché intérieur européen. Et après, ça a été dit, c'est tous les marchés de libre-échange qui ont été contractés ou qui sont en cours de signature, qui continuent de fragiliser encore davantage l'agriculture européenne et puis plus particulièrement l'agriculture française.
José Perra, je voudrais qu'on revienne un instant sur ce qui s'est passé ce week-end, principalement samedi, au moment de la visite d'Emmanuel Macron, qui a provoqué donc des affrontements entre agriculteurs, policiers, qui étaient déployés en masse dans les halles du salon. Il y a une séquence quand même qui a choqué beaucoup de monde, qui a ému beaucoup de monde. On va la revoir ensemble. C'était donc samedi, vous l'avez sûrement déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, c'était donc au moment de l'inauguration, quand une partie des exploitants agricoles en colère ont voulu empêcher le chef de l'État d'entrer dans le salon de l'agriculture. Ces images, José Pérez, elles font mal au cœur parce que les agriculteurs et les policiers, au fond, n'ont pas de désamour, bien au contraire, j'ai envie de dire qu'ils se rejoignent en beaucoup de points. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé samedi ?
On a trouvé ça complètement affligeant, quoi. Nous sommes venus exprimer notre...
Pardon, je vous le demande directement, il y a beaucoup d'agriculteurs de la coordination rurale dans ces manifestants-là ?
Ah, dans ces manifestants, il n'y en a pas beaucoup, non. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Et on était tous mélangés, hein. Il y avait beaucoup de manifestants des autres syndicats. Tous les gens qui sifflaient, ce n'étaient pas des gens de la coordination rurale. Voilà, on n'était pas plus ou pas moins que...
Et jusqu'où vous vouliez aller ? On va dire, imaginons qu'il n'y avait pas de force de l'ordre. Vous l'auriez attrapé par le callback, Emmanuel Macron ?
Bien sûr que non.
C'était quoi le projet ?
Le projet, c'était ce qui a été fait au départ. Il a été hué, il a été sifflé. Hein, il a été, voilà, les gens ont dit ce qu'ils pensaient, mais à aucun moment... Personne ne se rapprochait du président de la République. Aujourd'hui, nous sommes des agriculteurs.
Mais encore une fois, on a une interview très sincère et vous savez, je me permets d'avoir des mots directs avec vous parce que vous savez à quel point nous vous aimons et nous vous soutenons. Donc c'est pour ça que je me permets de vous parler directement. Mais des sons d'agriculteurs, des extraits d'agriculteurs ce week-end qui disaient nous, il rentrera pas. Il n'y a pas moyen qu'il rentre dans le salon. C'est chez nous, c'est notre maison. On ne veut pas lui, il rentrera pas. On l'a entendu des dizaines de fois. Donc il y avait quand même une réelle animosité, une volonté. De l'empêcher physiquement d'entrer dans le salon de l'agriculture.
Oui, mais voilà, on dit ça pour mettre de la pression, c'est toujours pareil. Et jusqu'à aujourd'hui, toutes nos actions, tout ce qu'on a fait, on a voulu mettre de la pression dans tous les sens, faire augmenter la pression. Et on voulait même pas monter à Paris. Le but, c'était mettre de la pression pour être écouté chez nous. Vous voyez, bon, il a fallu monter jusqu'au salon pour continuer à mettre de la pression. On respecte la République, on respecte le président de la République. On est d'accord avec sa politique, on ne l'est pas. C'est différent. Mais à aucun moment donné, on ne se serait pris au président de la République. Aucun agriculteur ne se serait pris au président de la République, à aucun moment donné.
Raphaël, vous voulez réagir ?
Oui, parce que ce grabuche, ce chahut, au moment de l'inauguration du salon, ne s'explique, il faut le rappeler, que parce que la veille, Emmanuel Macron, ses équipes, peu importe, en tout cas, c'est le couac de l'invitation des soulèvements de la terre à ce débat que Emmanuel Macron a voulu organiser avant de se rétracter, avant de démentir. C'est d'abord ça, l'exaspération et je pense la colère qui s'est exprimée et je pense que tout le monde le regrette de cette manière-là. Mais c'est ça qui a cristallisé cette exaspération. Comment imaginer un seul instant mettre autour de la table pour résoudre les problèmes de l'agriculture, d'une agriculture...
Mais pardon Raphaël, vous croyez que s'il n'y avait pas eu ce grand débat annoncé, on n'aurait pas vu ces images samedi ?
Oui, mais en même temps, c'est vous qui avez dit.
Ah, je pense que ça a été vraiment la goutte d'eau qui a rendu les choses insupportables pour l'essentiel des agriculteurs.
Je vous entends tout de suite. Je voudrais juste qu'on écoute Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d'État affiliée au ministère de l'Intérieur, qui évoque une forme de banalisation des violences autour du président de la République.
Il y a quelque chose, moi, qui me frappe, qui me choque, et c'est bien la ministre marseillaise qui vous répond, que dans la classe politique, personne n'est condamné les violences. Moi, je suis stupéfaite. C'est le président de la République. Alors, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on puisse venir discuter. Il a dit, je viens faire un grand débat. Il n'a pas dit, je viens me défiler. Il aurait très bien pu dire, oui, effectivement, vous savez, les renseignements, il les avait. Il savait dans quel contexte il arrivait. Pas de condamnation des violences contre les policiers, mais des violences contre le président de la République. C'est le président de la République. On ne peut pas se comporter n'importe comment.
Oui, vous, ça vous choque pas que personne n'ait condamné ça ?
Moi, je trouve que...
Qu'est-ce que ça fait qu'elle soit marseillaise ?
Mais non, mais elle exagère. Elle a sa faconde, elle exagère, franchement.
Non, moi, je trouve simplement que, on l'a dit, chaque année, le Salon de l'agriculture est le lieu de déambulation des politiques. C'est une tradition qui date de la nuit des temps, c'est très bien.
Non, mais c'est les images que je viens de vous montrer qui ne sont pas une tradition. C'est ça qui n'est pas une tradition, je vois à l'écran.
Ensuite, que les agriculteurs qui sont en plein mouvement social, je vous rappelle que, y compris le président de la République, avait donné rendez-vous aux agriculteurs au moment du salon de l'agriculture. Eh ben, c'est le salon des Français, c'est le salon de la grande rencontre, mais c'est le salon des agriculteurs. Et les agriculteurs, c'est pas simplement des gens qui viennent montrer aux petits Parisiens des cochons et des vaches parce qu'ils en ont jamais vu.
Vous
c'est des gens
que ça...
qui produisent. Vous... Ensuite, est-ce qu'il y a eu, chahut? Est-ce qu'il y a eu violence en la, contre
Il y a
eu
8 policiers qui ont été blessés, 6 interpellations. Oui. C'était pas le monde des bisounours non plus, alors, François Calfon.
Et enfin, pour vous répondre, pardon, mais monsieur Darmanin, jusqu'à la porte de Paris, alors que je peux vous dire que pour le mouvement des retraites, pour les Gilets jaunes, il n'y a pas eu tant de grâces qui ont été offertes par le pouvoir policier, ont laissé les agriculteurs et ont laissé les tracteurs monter jusque autour de la porte de Versailles et sur les Champs-Élysées. Donc il y a eu un deux poids deux mesures d'emblée sur le plan du... Et moi, je n'ai rien contre le fait qu'on ne soit pas rentré en confrontation avec les agriculteurs, mais il y a eu de la part du pouvoir une certaine largesse à l'endroit des agriculteurs, c'est la réalité.
Vous souhaitiez que ça dégénère un petit peu, sans en venir aux mains, sans être violent avec le chef de l'État. On a bien compris les lignes rouges qui sont les vôtres. Mais il y avait une sorte de bordel organisé.
Non, pas du tout. On ne souhaitait pas du tout que ça dégénère, bien sûr que non. On ne souhaitait pas. Là, ça a dégénéré quand ils ont commencé à envoyer toutes ces forces de l'ordre. Et c'est une pression qui a été mise aux agriculteurs.
Il y a des bonnets de votre...
Écoutez-le.
Et c'est une pression qui a été mise aux agriculteurs.
Il n'y a pas que des bonnets.
Et une pression qui a été mise aux agriculteurs. Et une pression supplémentaire. Okay. Oui, mais pourquoi ?
Vous étiez où, vous, précisément, à ce moment-là, là ?
Mais moi, j'étais dedans, bloqué, parce que chaque fois qu'on faisait 10 mètres avec les bonnets, on nous bloquait. Et dehors, on bloquait que nos équipes, que nos agriculteurs.
C'est-à-dire quoi ? Qu'on vous a provoqué ?
Il y a eu de la provocation, oui. Ça a été organisé, ça. Parce qu'ils bloquaient que nous. Il y avait que nous.
Que nous, la coordination rurale ?
La coordination rurale qui avait été bloquée. Moi, j'étais dedans, je me déplaçais de 10 mètres, j'avais 80 CRS tout le temps autour de moi. Hein. Et là, dehors, à un moment donné, on est allé voir ma coprésidente, parce qu'on voyait que dehors, ça bloquait, et ils voulaient pas laisser rentrer nos agriculteurs qui rentraient qu'au salon, hein, pour aller voir les stands. On a demandé à la sécurité de voir un responsable. Et on a été accueillis par 80 CRS. On a demandé juste de voir un responsable. Ça a été organisé.
Le pouvoir vous cible actuellement parce qu'il y a des liens qui sont supposés avec le Rassemblement national et qui mettent notamment Emmanuel Macron en colère. On le verra dans un instant. Je voudrais juste, vous allez poursuivre. Juste qu'on entende Nicolas Dupont-Aignan qui était au salon aujourd'hui.
Ce sont que des liens.
Hein. Ah ben, des liens de quelle nature ?
Non, mais c'est des liens. Vous dites que ce sont des liens.
Non, c'est des liens supposés. Moi, je ne dis absolument rien. Je vous accuse.
Ce sont des liens supposés, quoi.
Oui.
Parce que notre syndicat, il est complètement.
Vous allez me répondre là-dessus dans une minute. Je voudrais juste qu'on entende Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France qui était au salon aujourd'hui et qui parle de la visite présidentielle.
Le chef du cirque, c'est Emmanuel Macron qui a cru qu'il pouvait faire semblant de visiter le salon avec des dizaines et des centaines de CRS. Voilà, bon. Je vais vous dire, la parole politique doit être rare, économe de mots et ne pas mentir. Et le problème des agriculteurs, d'ailleurs comme tous les Français, c'est qu'ils ont compris que leurs dirigeants passaient leur vie à parler et à mentir. Et il n'y a plus de parole crédible. Donc moi, j'ai suis venu ici très modestement pour dire, il y a des solutions, mais il faut être cohérent et on peut améliorer les choses avec un vrai plan agricole, c'est possible. Et je peux vous dire qu'on a eu un très bon accueil, donc ça veut bien dire quand même que les agriculteurs font très bien la différence entre les clowns et les gens sérieux.
Et le président qui a donc également pointé du doigt le Rassemblement national qui aurait selon lui agité certains syndicats d'agriculteurs. À lire dans le Figaro ce matin, Emmanuel Macron donc, qui a ciblé le syndicat agricole auquel vous appartenez, José Pérez, malgré les discussions et les avancées, un syndicat a fait le choix de ne pas appeler au calme. C'est donc le vôtre, la coordination rurale. Des décideurs locaux de la coordination rurale sont engagés de manière très officielle au Rassemblement national. Conservez votre réponse. 30 secondes. Johan, vous vouliez dire un mot à ce sujet ?
Oui, mais en l'occurrence, que des agriculteurs soient engagés dans un parti politique, je ne vois pas où est le problème.
S'ils ne le sont pas, c'est un problème de dire qu'ils le sont.
Mais en l'occurrence, il se trouve quand même que les agriculteurs, en 2022, ont moins voté pour le Rassemblement national que l'ensemble de la population française. Quand on est agriculteur, on vote moins dans ce pays pour le Rassemblement national que l'ensemble des Français. Il faut quand même le savoir. Ça ne veut pas dire que ça sera le cas en 2027. Il y a une colère qui monte, etc. On sent bien que le Rassemblement national, naturellement, cherche à engranger sur cette colère, que Marine Le Pen et Jordan Bardella se soit réjouis de ce qui s'est passé samedi, pour moi, ça ne fait absolument aucun doute. Mais ils font de la politique aussi, naturellement. Et si Jordan Bardella a décidé cette année de passer 2 jours au salon, naturellement, c'est pour aussi jouer la comparaison avec Emmanuel Macron. Mais de fait, il est toujours plus facile aussi d'être dans l'opposition que d'être aux responsabilités. Parce que quand vous êtes dans l'opposition, vous pouvez faire des promesses, ça n'engage que vous, ça ne vous coûte absolument rien. Quand vous êtes aux responsabilités, les choses sont quand même différentes.
Pourquoi est-ce que le président de la République est focalisé à ce point-là sur la coordination rurale et ses liens supposés donc avec le RN ?
Non, mais il avait choisi ses interlocuteurs, d'ailleurs qui sont les mêmes interlocuteurs quand même depuis des dizaines d'années, c'est la FNSEA. Donc, le problème de la coordination rurale, c'est que ce n'est pas la FNSEA. Donc évidemment, c'est sans doute la coordination rurale apparaît comme plus indépendante et plus difficile à tenir. Et c'est ça qu'on lui reproche. Moi, j'ai quand même été très choquée par toute la rhétorique autour de ça. Vous savez, on a vu le porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot dire « Ah, c'était très choquant, on a entendu les agriculteurs crier on est chez nous ». Mais pardon, si les agriculteurs sont pas chez eux au salon de l'agriculture, ils sont où chez eux en réalité? Non mais c'est quand même se moquer du monde. Ils sont plus chez eux dans leur ferme, ils sont plus chez eux parce qu'ils sont atteints par une concurrence déloyale, qu'on leur laisse le droit de dire qu'ils sont chez eux au salon de l'agriculture. Alors ça renverrait au cri on est chez nous de c'était quand même très filandreux, comme démonstration très alambiquée au cri du Rassemblement National. J'ai trouvé ça extrêmement injuste.
José Pérez, votre réponse. Emmanuel Macron qui laisse entendre qu'il est tombé dans un guet-apens d'agriculteurs proches du RN en évoquant votre syndicat.
Notre syndicat est totalement apolitique. Nos agriculteurs, après, chez eux, votent qui ils veulent. Voilà. Nous, quand on a été reçus par M. Macron, je m'étais engagé à calmer mes troupes. Je l'ai fait. Ceux qui ont commencé à crier et à siffler... Jusqu'à on est sorti de la réunion, de la deuxième réunion, celle qui s'est faite avec les 20 agriculteurs de chaque syndicat qui sont montés, quand on est descendu, mes troupes étaient calmes. C'était les autres.
Mais ça vient de nulle part. La coordination rurale, certains de la coordination rurale, des décideurs sont engagés de manière très officielle au RN. Le président de la République dit ça comme ça ?
Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Nous, on n'est pas engagés. Chacun chez lui est engagé avec qui il veut. Et les Français aujourd'hui, si on regarde les élections, chaque Français vote qui il veut. Et en agricole, c'est pareil. Nos agriculteurs sont engagés avec qui ils le souhaitent. Si nous, on ne fait pas de politique. On est des syndicalistes. On défend le monde agricole. On ne défend pas du tout la valeur politique.
Je voudrais qu'on voit Karima ensemble la réponse de Jordan Bardella hier, qui a été tout en nuances pour répondre au chef de l'État, qui l'accuse de schizophrénie. Je ne sais pas si on peut voir l'infographie, la voici. Je pense que M. Macron est atteint d'une schizophrénie très inquiétante et dangereuse. Si les agriculteurs descendent dans les rues aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. Un commentaire, Karima ?
Non, mais en ce moment, on peut dire quand même pour Jordan Bardella, pour le RN, c'est une période quand même plus facile pour eux parce qu'ils peuvent justement un peu récupérer cette fameuse colère. Ils peuvent être un peu l'alternative aussi, donc c'est un peu plus facile. En ce moment, Emmanuel Macron, la figure d'Emmanuel Macron, ça cristallise justement ces tensions. C'est le symbole pour plusieurs de l'impuissance. Et il faut quand même mettre un peu les choses en perspective, c'est-à-dire que la population, la grande majorité de la population des Français, ils soutiennent, bien sûr, elle soutient les agriculteurs, donc c'est une chose, mais c'est aussi peut-être pour Emmanuel Macron et son gouvernement de dire, écoutez, on peut pas non plus avoir deux poids, deux mesures. S'il y a de l'agitation, s'il y a de la violence, par exemple, on peut pas tolérer non plus, donc c'est peut-être d'envoyer simplement le message que oui, il y a du chahut, peut-être effectivement qu'il y a pas eu véritablement de la violence comme on a pu voir, par exemple, à Sainte-Soline ou des choses comme ça. Mais quand même, la pression, la tension était extrêmement palpable. Et les images qu'on voit ici, qui sont malheureusement déplorables, quand on voit des gendarmes, des policiers qui se confrontent comme ça avec des agriculteurs, l'image est saisissante. Donc, c'est assez choquant. Et à l'extérieur, quand je vous dis dans le monde entier, bien, c'est ce qu'on voit. Donc, il y a aussi cette perception. Et peut-être en terminant, il faut quand même se concentrer, je pense, effectivement, sur les solutions. Et on voit qu'il y a une fracture. On voit que finalement, le système système économique, qu'est-ce qui a été créé, ça ne fonctionne plus. Les agriculteurs sont en train de crever. En fait, plusieurs agriculteurs sont littéralement en train de crever économiquement, et pas juste en France. On le voit dans d'autres pays. Et si on parle de prix, par exemple, ben ça se fait. Hein. Il y a des pays, c'est pas juste des pays. Certains disent que ça va être soviétique, par exemple, pour des prix planchers ou des prix comme ça. Si vous regardez même en Amérique du Nord, au Canada, il y a une commission. Je regardais, hein, il y a une commission canadienne du lait, et à chaque année, il y a un processus annuel d'établissement des prix du lait. On rencontre plusieurs acteurs, des producteurs laitiers, l'association des transformateurs, et on établit des choses, et ça varie d'une année à l'autre. C'est pas vrai qu'on fixe un prix et c'est foutu, et vous êtes pris avec ça pendant 10 ans. Donc, il faut discuter. Mon point, il faut mettre les choses sur la table. Il faut trouver d'autres solutions parce que ça ne fonctionne plus.
Qui vous a le plus convaincu ce week-end, José Pérez? Emmanuel Macron ou Jordan Bardella?
Je n'ai pas rencontré Jordan Bardella.
Mais dans le fond des propositions et du message?
Écoutez, aujourd'hui, c'est M. Macron qui tient les rênes. Nous devons peut-être croire à une proposition qu'il a annoncée. On ne sait pas si elle sera appliquée, de quelle façon elle sera appliquée. On n'a pas trop le choix. Demain, il faut qu'on reparte travailler sur nos fermes, puisque ça fait un mois qu'on manifeste. Voilà, aujourd'hui, il faut des solutions. Nous, on a des agriculteurs qui sont en détresse. Si demain, on rentre sur nos fermes et qu'on n'a pas de solution, il va y avoir une grande détresse qui va se mettre en place. J'ai peur que certains agriculteurs fassent des bêtises voilà, sur lesquelles ils ne pourront pas revenir.
Il faut évidemment espérer que ça n'aille pas aussi loin. Oublions le fait que la coordination rurale soit liée ou pas, supposément ou pas, avec le Rassemblement national. Il y a une réalité, Raphaël Steinville, c'est que le RN est de moins en moins boudé par les agriculteurs. Avec les images qu'on a vues de Jordan Bardella comparées à celles du chef de l'État dimanche, c'est un contraste qui est saisissant.
Oui, c'est vrai, mais d'une certaine manière, on a l'impression de découvrir que le monde paysan, pour une part, est attentif aux propositions du Rassemblement national et, voilà quelques années, du Front national. En 2002, Jean-Marie Le Pen, au premier tour, avait recueilli 22% des suffrages des agriculteurs. C'était déjà bien davantage que son score national. Donc il y a toujours eu quand même une appétence, un souci des agriculteurs pour les propositions, le discours du Front national hier et du Rassemblement national aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même revenir sur quelque chose qui me paraît quand même très très inquiétant. C'est qu'aujourd'hui, on fait quasiment le procès de la coordination rurale.
C'est vrai que c'est un peu le bouc émissaire du président.
En raison de ses liens supposés avec le Rassemblement national. Mais qu'est-ce que ça dit lorsque le président nous dit que des responsables locaux de la coordination rurale seraient membres du Rassemblement national? Ça veut dire qu'on est encore une fois dans du fichage.
On a la eu disqualification.
La nazification de l'adversaire en prenant des qualificatifs qui veulent l'exclure du champ de la discussion. Mais c'est quand même très inquiétant de voir ce goût du fichage du pouvoir en permanence. C'était vrai dans le cas de l'ARCOM sur les plateaux de télévision. On va comptabiliser les éditorialistes en fonction de leur coloration politique supposée.
On attend toujours de connaître la méthode.
Maintenant, avec les agriculteurs, on va discuter avec ceux qui seraient supposément.
François Calfon, un dernier mot, parce que j'ai promis à M. Pérez de le libérer avant 23h. Il est 23h pile, donc vraiment un dernier mot.
Ça va être très très rapide. Pendant les Gilets jaunes, on a stigmatisé les Gilets jaunes en disant qu'ils étaient l'extrême droite, factieux, etc. Maintenant, on stigmatise les bonnets moutardes. Et c'est quoi?
Les bonnets moutardes.
On peut appeler ça comme ça. C'est jaune tendance moutarde.
C'est vrai.
On aime la moutarde de Dijon, même quand elle vient du Lot-et-Garonne. Simplement pour dire quoi?
Ce sont des
stigmatisations dilatoires. La question est simple. J'ai encore vu une banderole pendant qu'on discutait. Peut-on sortir l'agriculture du libre-échange? C'est ça la question qui est posée. Parce que le libre-échange, c'est au détriment de la qualité et même pas, finalement, au bon prix, ni pour les agriculteurs, ni pour les consommateurs.
23h01, je vous libère. José Pérez, qu'est-ce que je vous souhaite?
Je ne sais pas. Souhaitez-nous qu'on obtienne des vraies mesures, et que nos agriculteurs puissent repartir dignement et fièrement travailler, et qu'ils arrivent à se retirer un revenu décent pour faire vivre leur famille.
Et évidemment, vous êtes le bienvenu. Je crois que vous rentrez mercredi dans le Lot-et-Garonne. D'ici mercredi, si on peut se revoir, vous êtes le bienvenu sur ce plateau.
Merci beaucoup, José Pérez.
Merci. Le temps de lancer le JT, restez sur votre chaise, parce que sinon, vous allez passer devant Maureen, ce serait dommage. Le JT de Maureen Vidal.
«
Mettre fin à la crise en 3 semaines. Le président donnera rendez-vous aux représentants du secteur agricole à l'Élysée. On doit sceller la fin de cette crise. Emmanuel Macron annoncera le plan pour la nation et les mesures défendues au niveau européen. Porter plainte à distance, désormais possible, et généralisé à tout le pays depuis aujourd'hui. En cas de violence, de vol ou d'escroquerie, notamment, les victimes peuvent choisir un créneau en ligne de rendez-vous et faire leur déposition depuis leur domicile. L'identification est sécurisée par un téléservice défini et le procès-verbal est ensuite adressé par voie électronique à la victime qui doit confirmer la retranscription fidèle. Enfin, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé son souhait de fermer le collège Avicenne à Nice. Cet établissement musulman privé et hors contrat est visé en raison d'un problème de financement opaque. Le maire de la ville s'est réjoui de cette décision.
Merci beaucoup, chère Maureen. Rendez-vous dans 30 minutes. Amaury Bucco a pris la place de José Pérez. De salle deux ambiances, vous, c'est pas bonnet jaune, hein, c'est un petit pull en V-cravate. Non, mais vous êtes superbe. Vous êtes superbe, Amaury, vous allez bien avec le décor, c'est parfait.
Non.
Tiens, François Calfon, avant qu'on passe à toute autre chose, parce qu'on a beaucoup d'actualités ce soir, je voulais vous faire un petit plaisir. Vous avez votre secrétaire général qui est passé au salon aujourd'hui.
Oui, on a
Olivier
ça,
Faure.
Premier secrétaire,
oui, c'est vrai, autant pour moi. Premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est vrai, monsieur. Il aime bien l'apéro, le sauciflard, Olivier Faure. On écoute ?
Bah oui.
Allez.
Avec plaisir.
On sort de chez les spiritueux, en fait, c'est aussi notre façon, aussi, à nous, Français, de continuer à entretenir, une façon d'être ensemble. En France, on prend l'apéro, bon, c'est partout pareil. Enfin, chez nous, c'est aussi notre culture, c'est le sauciflard, l'apéro. Je ne veux pas faire dans la démagogie ou dans une forme de caricature, mais on défend ça aussi, on défend aussi une façon de vivre.
Eh ben, qu'est-ce qui lui arrive ? Attention là, il prend de très très gros risques avec ses amis de la gauche et de la NUPES là, Olivier Faure.
Seine-et-Marne, parce que j'ai des mandats et il est député de Seine-et-Marne, donc vous savez, c'est un département rural. Le week-end, quand il rencontre ses électeurs, c'est autour d'un bon barbecue, vous voyez.
Qu'est-ce qu'il dit à Sandrine Rousseau après ?
Fête de l'humain.
Qu'est-ce que vous répondez à Sandrine Rousseau après ? Comment vous allez faire
Moi, je réponds à Sandrine Rousseau ici sans aucune protection. Que j'aime
vous aimez les barbecues ? J'aime vous mangez de la viande ?
Voilà, c'est peut-être un peu viriliste. Moi, je crois que traditionnel. Et ce ne sont pas les agricultrices des différents syndicats, au contraire.
Mais je pensais que vous étiez déconstruit. Je suis ébobie.
Je ne suis pas tout à fait déconstruit, même s'il faut de tout pour faire un monde.
Vous avez fait parler votre ami Fabien Roussel également, du Parti communiste français, qui lui, à gauche, ose quand même parfois montrer qu'il est fier d'une certaine culture française, communiste et donc partageur. Donc il ne demandera pas de droit d'auteur. Il est magnanime, Fabien Roussel. Ça vous a fait sourire, Johan et Gabriel, pardon ?
Non, je rigolais parce qu'effectivement, je me dis le Parti Socialiste...
N'importe quoi.
Oui, il évolue comme ça, un peu au gré du vent. On ne sait pas très bien dans quelle direction il va. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre.
On n'a jamais été contre les barbecues. Enfin, je vois pas le...
Un peu quand même.
Un petit peu quand même. Hein.
Au moment de la fameuse polémique avec Sandrine Rousseau, etc. Bon,
après, c'est vraiment anecdotique. Bon, hein, on n'est pas en train de faire...
C'est anecdotique, mais...
Non, mais par exemple, ce qui n'est pas anecdotique, c'est que la gauche... Moi, en tout cas, c'est ma conviction. J'ai même écrit la gauche, elle doit être populaire. C'est-à-dire que...
Ah, mais personne n'a dit le contraire. C'est juste qu'elle ne l'est plus.
La gauche, c'est bien.
Elle ne l'est tellement plus. Elle ne l'est tellement plus qu'on s'étonne quand elle essaye de le redevenir. Gabriel Cluzel.
Il y a plusieurs choses qui me frappent. La première, c'est que c'est quand même surjouer la gauche populaire. Le sauciflard, l'apéro,
en fait.
Il va venir avec un béret. Ça me rappelle Gabriel Attal sur ses bottes de foin. Il manque que les sabots.
Il manquait une BD de Super Dupont et puis c'était parfait.
Ou c'est un peu un peu trop. Fabien Roussel qui dit qu'il est communiste, donc partageur. Je remarque qu'en ce moment, le communisme a le vent en poupe. Hein. Je rappelle qu'il y a eu quand même 100 millions de morts, mais bon, visiblement, ça n'intéresse pas grand monde. Et il faut quand même se rendre compte de quelque chose, c'est que c'est
chef de l'État par l'Aluma. Donc
voilà, exactement. Il a vanté aussi les mérites du communisme pendant son discours.
On a panté Monsieur Manoukian, et je pense que vous n'êtes pas
content. Il a raconté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça que le communisme c'est merveilleux? Vous savez qu'il y a eu des millions de morts quand même.
Le communisme. Bon, on était sur le sauciflard.
Le communisme, c'est Babeuf.
On était sur le sauciflard
avant que les Russes. Non mais moi je suis le bolchevisme. Vous voyez.
Allez, stop.
Le communisme est encore du crédit.
Il rentre au Panthéon. C'était pas le sujet.
Et le dernier point, c'est que malgré tout le sauciflard et tous les apéros de la terre, il y a un vrai problème pour la gauche. C'est qu'aujourd'hui, c'est quand même la défaite du mondialisme. Et c'est pour ça que quand Emmanuel Macron dit le Rassemblement national est en train de récupérer la mise, pourquoi? Pour une seule raison, c'est que c'est la gloire de la frontière, tant pour la circulation des biens que des marchandises.
On avance. On va évoquer parce qu'on a beaucoup d'actu. Je voudrais qu'on évoque, s'il vous plaît, François.
Oui, c'est bien le paradis.
S'il vous plaît. Je vais pas. S'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Avant qu'on évoque cet énorme rebondissement dans l'affaire du procès d'Éric Masson aujourd'hui avec le principal accusé qui a avoué avoir tiré sur le policier, je voudrais juste qu'on prenne 3 minutes parce qu'il est riche d'enseignements, ce petit sondage Ipsos pour nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Le Premier ministre Gabriel Attal et le président du Rassemblement national Jordan Bardella sont ceux qui inspirent le plus la confiance pour l'avenir parmi les élus de la nouvelle génération, non seulement auprès de l'ensemble des Français, mais surtout auprès des plus jeunes. C'est très intéressant, Johan, un petit décryptage rapide.
Oui, regardez, on a posé cette question, effectivement. Parmi les personnalités politiques suivantes, de moins de 45 ans, quelles sont celles qui vous inspirent le plus confiance pour l'avenir? Alors, 32% des Français font confiance pour l'avenir à Gabriel Attal, 34 ans, plus jeune Premier ministre de l'histoire. Merci. Et 31% font confiance à Jordan Bardella, 28 ans, à la tête du Rassemblement national, premier parti d'opposition. Donc, alors les autres, on l'a vu, sont loin derrière. Hein, vous le voyez, 3e place, Marion Maréchal, puis Gérald Darmanin qui est en 4e position. Ce que montre ce sondage, c'est aussi que Gabriel Attal et Jordan Bardella sont aussi en tête chez les jeunes, chez les 18-24 ans. C'est Jordan Bardella qui inspire le plus confiance pour l'avenir. Alors il faut dire que Gabriel Attal et Jordan Bardella d'abord se connaissent très bien. Très tôt, à partir de 2017, ils se sont repérés, se trouvent en réalité des points communs, non pas sur le fond, mais sur la forme. Bien sûr, ils sont les deux hyperactifs, très à l'aise dans les médias. Ils ont tous les deux beaucoup d'ambition, un langage plus direct que leurs aînés. Ils parlent comme la plupart des Français. Bref, ils cassent un peu les codes. Alors très vite, ils comprennent que l'un et l'autre seront des adversaires de premier plan. Dès l'élection d'Emmanuel Macron, ils demandent d'ailleurs régulièrement à débattre ensemble pour mettre en scène leur opposition. Ils ne s'étaient pas trompés puisqu'ils sont aujourd'hui deux responsables politiques de leur génération les plus influents du pays. De là à les voir un jour s'affronter lors de l'élection présidentielle, eh bien tous les deux y pensent forcément. Ce sondage conforte d'ailleurs cette idée, d'où les attaques de plus en plus frontales et intenses entre les deux hommes.
Commentaire Raphaël Saint-Ville, les prochaines grandes échéances pourraient donc se jouer entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, les deux nouvelles stars de la politique.
Ah, mais il faudra compter sur l'un et sur l'autre, c'est une certitude. Mais,
on saute toute une génération là, hein,
ouais,
des Bruno Le Maire.
C'est un remplacement générationnel.
Ouais, si, c'est, on peut dire ça. Ouais.
Ça va faire mal, mais moi ce que je trouve aussi intéressant dans ce sondage, c'est de voir qu'il bénéficie bien évidemment de la surexposition médiatique qui est due l'un parce qu'il est le Premier ministre, l'autre parce qu'il est président du premier parti d'opposition. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'autres personnalités dans la même génération qui bénéficient d'une surface médiatique tout aussi importante, je pense notamment à Gérald Darmanin, est très à la peine. À l'inverse, une Marion Maréchal qui, on peut pas dire, bénéficie d'une surface médiatique comparable, fait des scores quand même assez étonnants, notamment sur l'ensemble des Français.
Allez, je viens de voir Raphaël Glucksmann, très bien placé, là, je suis étonné. Hein.
Très bien placé.
Mais, c'est pas mal quand même, il est dans le quintet, hein, je crois. On peut remettre, les amis
quand même, on peut dire que la France a véritablement une relève assez forte, parce que des fois, on regarde dans d'autres pays de voir quand même une.
Après, il y a une distance énorme hein, entre le troisième et les deux premiers. Hein.
Oui, mais c'est quand même, je trouve ça fascinant. 18-24. Je trouve ça quand même assez fascinant, parce que vous avez un Bardella et M. Attal aussi. Il y a quand même. Qu'est-ce qui compte aussi en politique? Bon, il y a la question du charisme, la question de la communication, et ils maîtrisent parfaitement les nouveaux codes aussi.
Mmh, c'est vrai.
Maintenant, ça va être de voir, chez les jeunes, mais est-ce qu'ils font un peu l'unanimité aussi plus largement? Oui, parce que est-ce qu'on va basculer aussi? Est-ce que les Français se sont dit, bon, avec Emmanuel Macron, on était justement avec un président très jeune. Est-ce qu'on a envie de continuer un peu dans cette veine-là? Ou au contraire, bon, il y a certaines limites, il y a un certain manque d'expérience à voir, mais quand même, on peut dire que les deux maîtrisent parfaitement les codes de la communication et ils sont excellents aussi au contact des Français. C'est une grosse différence.
Ouais, très vite, pour conclure, on va passer à l'affaire avec Masson.
Quand on veut finalement remplacer une génération entière, c'est que dans le personnel existant, finalement, les Français ne s'y retrouvent pas. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième, contradictoire, on va voir aux élections européennes, les 18-24 ans, Ils pensent ce qu'ils veulent et c'est très bien qu'ils le pensent d'ailleurs. Mais il faudrait déjà qu'ils soient inscrits sur les listes électorales et qu'ils viennent.
Et qu'ils se déplacent pour voter. Et donc, mais peut-être que cette nouvelle Atalmania et Bardellamania va pousser les jeunes
sans doute.
Mais vers les urnes. Ce serait pas plus mal.
Tous ces gens maîtrisent très bien les médias. Maintenant, est-ce que l'effet médiatique, TikTok, parce que beaucoup des programmes de télé auxquels nous participons sont repris sur les réseaux sociaux, correspondent à un engouement civique, c'est-à-dire l'inscription et la participation active à la politique, c'est une autre question quand même.
On avance. Il niait donc jusqu'alors toute implication. Malgré les mises en cause de plusieurs témoins, le principal accusé du meurtre du policier Éric Masson en mai 2021 à Avignon, Ilyas Akoudad, a avoué aujourd'hui, à la surprise générale, à son procès devant la cour d'assises du Vaucluse, avoir tiré sur la victime, mais sans connaître sa qualité de policier. Noémie Schulz, qui suit le procès depuis son début pour CNews sur place, est avec nous en direct. Bonsoir Noémie, merci d'être connectée avec nous. Un rebondissement inattendu, vraiment, après une semaine de procès. Pourquoi ce revirement du mise en cause? Pourquoi aujourd'hui?
Vous savez, c'est ce mystère un peu des audiences de cour d'assises où il se passe des choses qui ne se passent pas ailleurs. Et effectivement, depuis près de 3 ans, Ilyas Akoudad était comme emmuré dans ses dénégations depuis le début du procès la semaine dernière. Il continuait de nier son implication, de dire qu'il n'était pas sur la scène de crime au moment des faits, alors qu'il y avait des preuves matérielles très fortes, des résidus de poudre retrouvés sur lui, son téléphone qui a borné au moment de la mort d'Éric Masson. Et effectivement, la situation était assez intenable. Et donc, l'avocat d'Ilyas Akoudad a attendu le bon moment pour accompagner son client dans ses aveux. Franck Berton, c'est un avocat pénaliste chevronné. Ce n'est pas la première fois qu'il l'accompagne comme ça, une sorte de libération de la parole d'un de ses clients devant une cour d'assises. Là, il a attendu le moment où la mère d'Ilyas Akoudad était entendue par la cour d'assises. Une mère qui, pour ne pas trahir son fils, a clamé, a continué de dire qu'elle le pensait innocent. Franck Berton s'est alors tourné vers son client qui était comme plié en deux dans le box. Soit votre mère a raison, soit elle se trompe. Est-ce que c'est vous qui avez tiré sur Éric Masson ? Oui, reconnaît enfin Ilyas Akoudad, c'est moi qui ai tiré, mais je ne savais pas qu'il était policier. Il y a ensuite eu une assez longue déclaration sur les circonstances, mais il sera interrogé à nouveau mercredi sur les faits, bien sûr, qui lui sont reprochés. Mais il a conclu cette première déclaration, ses premiers aveux par ces quelques mots. Ce qui me pousse à m'exprimer, c'est que ça me fait mal de voir la famille de Monsieur Masson avec toutes ces questions. J'ai honte, voilà, donc pour ces aveux obtenus aujourd'hui par l'avocat d'Ilyas Akoudad.
Et on écoute, je crois, Maître Berton, donc l'avocat du mis en cause.
La partie civile estime que c'est un non-événement. Si c'est un événement, quelqu'un qui reconnaît dans son box, après avoir nié pendant 3 années, être l'auteur des faits pour lesquels il comparaît, c'est une décision courageuse qui était la sienne et c'est une décision pleine de responsabilité. Il a dit à la cour d'assises qu'il avait besoin de le dire, que ça fait partie aussi du chemin qu'il a déjà emprunté en maison d'arrêt depuis de nombreux mois. Donc je crois qu'il y a tout lieu de se féliciter de cet aveu, parce que c'est pas quelque chose de banal dans une cour d'assises, c'est toujours une prise de responsabilité et c'est toujours aussi un élément essentiel à la manifestation de la vérité.
Noémie, ce qui est le plus important, c'est peut-être le sentiment après cet aveu de la famille d'Éric Masson. On peut imaginer du soulagement, quand bien même il pourrait être soulagé d'une manière ou d'une autre.
Oui, on a senti un mélange d'émotions, de soulagement de la part des proches d'Éric Masson, sa veuve, son frère, sa sœur, son père, sa mère également, qui sont présents depuis le début de ce procès, même si à l'issue de l'audience, l'avocate de la veuve d'Éric Masson, a regretté que ses aveux interviennent si longtemps après les faits. Je propose de l'écouter.
Ils avaient besoin de l'entendre, oui. Mais peut-être qu'il y a 2 ans et demi au début de ce dossier. Pas maintenant, pas à l'audience, pas après plus d'une semaine d'audience, alors qu'il les a en face d'eux depuis plus d'une semaine maintenant. Non, c'est théâtral, oui.
Noémie, un dernier mot. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça peut changer à la suite du procès, à la peine éventuelle qui sera infligée?
C'est très difficile à dire. Vous savez, ce sont des jurés et les magistrats professionnels qui vont décider de cette peine. Ils n'avaient pas besoin de ces aveux pour décider de la culpabilité ou pas d'Ilyas Akhoudad. Il y avait, on l'a dit, des éléments matériels, mais c'est important, un accusé qui reconnaît les faits. On verra s'il donne plus de précisions lors de son interrogatoire et on verra si ça a un effet effectivement sur la peine à laquelle il sera condamné. On le rappelle, il encourt la réclusion à perpétuité pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Et jugement rendu d'ici la fin de semaine, nous sommes d'accord?
Absolument, jeudi ou vendredi.
Eh bien, on suivra ça grâce à vous. Merci beaucoup, Noémie Schulz, donc depuis Avignon, de nous avoir éclairé sur ce rebondissement assez incroyable aujourd'hui. Donc, les aveux de cet homme qui marque un pas énorme, bien sûr, dans ce procès. Raphaël Steinville, il niait, on le rappelle, jusque-là.
Oui, mais ça fait partie de, et ça a été dit par Noémie, mais de ces instants très particuliers en cour d'assises où tout d'un coup, une partie, en tout cas, on ne peut pas établir que ce soit toute la vérité, c'est établi. Moi, j'ai le souvenir de lors du procès de Guy Georges, de maître Solange Joumi qui avait soutiré les aveux de Guy Georges qui niait avoir violé un certain nombre de jeunes femmes dans les années 90, je crois.
Dans l'Est parisien.
Et exactement. Et voilà, ça fait partie de ces instants de vérité.
Une réaction juste de Linda Kebab du syndicat SGP Police, puisque vous savez que tous les policiers ont été meurtris par ce drame en 2021. Écoutez sa réaction.
Vous savez, il n'y a pas un policier en France. Alors vous allez dire c'est un sentiment corpo, mais on a aussi l'intime conviction et puis surtout on a un instinct de flic. Il n'y avait pas un policier au regard des éléments factuels, concrets, scientifiques, les témoignages. On n'avait pas de doute. Alors évidemment, on respecte toujours la présomption d'innocence, mais on n'avait pas de doute quant au fait qu'il était le tireur. Il avait son brassard police dans la main. L'acheteuse dit qu'en effet, parce qu'il y avait une transaction de stupéfiants, donc l'acheteuse, et en général les acheteurs ne sont pas trop pro-police, dit qu'il avait bien le brassard dans les mains. Romain, le collègue d'Éric, dit bien qu'Éric avait crié « police, police » pour interpeller les deux personnes. Donc en fait, tout concorde. Et puis j'ai envie de dire, on parle quand même d'une personne qui a tiré sur un homme en journée, gratuitement. Alors si on peut, avoir un peu de nuance quant à la valeur de la parole d'un assassin, bon, un peu de décence aussi.
François Calfon.
Écoutez, moi ce que ça me dit, c'est une chose simple, une seule réflexion, c'est qu'on parle toujours de la justice des réseaux sociaux, de la justice médiatique, et on oublie finalement ce travail de réparation de part et d'autre de la justice elle-même. Et on a assisté, alors c'est une forme de mise en scène, mais au bénéfice finalement de l'intérêt public, à des aveux qui sont réparateurs pour l'accusé lui-même de la faute qu'il a commise.
Attention, ils sortent pas de nulle part, les aveux. Hein. C'est son conseil qui l'a poussé.
Mais ouais. Ça a été fait. Ça a été fait dans un endroit qui est fait pour ça et qui.
Non, même parlez pas de rédemption.
Attendez. Je suis pas en train d'en faire une victime et qui soulage quand même. On l'a entendu dans les témoignages qui ont été apportés. Les victimes, la famille, et ça, je crois que c'est quand même très important. Au moment où à chaque fois on juge au bout de 5 minutes sur Twitter. Je pense que mettre au cœur la justice en tant qu'institution, c'est important pour la cohésion de notre société, tout simplement.
Et je répète donc qu'on connaîtra l'issue de ce procès jeudi soir ou vendredi et on vous tiendra bien sûr informés. Autre sujet, nous avançons avec le ministère de l'Intérieur qui a piloté, vous le savez, directement l'expulsion de l'imam controversé de Bagnols-sur-Cèze. Ça s'est passé jeudi dernier. Eh bien, hasard du calendrier, c'est un autre imam. L'imam Hassani Kioussen, dont chacun connaît le nom ici, qui a demandé aujourd'hui l'annulation de l'arrêt d'expulsion prononcé contre lui il y a un an au nom de la liberté d'expression. Tanguy Hamon pour le service police-justice vous en dit un petit peu plus.
Après avoir passé de longues minutes à écouter la rapporteure publique décrire les faits pour lesquels l'expulsion de l'imam Kioussen est justifiée, je le rappelle, provocation à la haine et à la violence contre les juifs, les femmes et les personnes non musulmanes, eh bien l'avocate de l'imam Kioussen s'est attachée ensuite à expliquer pourquoi l'imam doit revenir en France. Elle a dit que ses propos étaient anciens et que l'imam avait depuis changé. Il n'est plus une menace pour la France. Elle a dit également que les paroles relevaient de sa liberté d'expression et d'opinion et que ce n'était pas un acte de provocation à la haine. Elle a dit également concernant les propos sur les femmes de l'imam, je le rappelle, il estimait que la place des femmes était à la cuisine et qu'elles n'avaient pas le droit de sortir sans la présence de leur mari, et bien qu'il s'agit là de machisme et en aucun cas d'une discrimination. Son avocate a enfin terminé en estimant qu'il n'avait rien à faire au Maroc, que son vrai pays était la France et qu'il doit désormais rentrer auprès de sa famille. Est-ce que l'avocate de l'imam Kioussen a convaincu le tribunal administratif de Paris? La réponse sera connue dans 2 semaines, le 11 mars.
Gabriel Cluzel. Il crache sur la France, mais il donnerait tout pour la retrouver. Oui, c'est formidable. Hein.
Mais il y a une épidémie du reste. Oui. Hein, il y a un nombre incroyable d'imams qui n'aiment pas la France, mais qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre là-bas. Une fois qu'ils l'ont quitté, qu'ils sont dans leur pays d'élection, eh bien, il faut absolument qu'ils y retournent. Alors, je ne sais pas si ça procède pas un peu du masochisme. Non, mais
il faut croire à ce mea culpa.
Non, mais le vrai sujet, c'est que tous les moyens vont être utilisés par. On parlait de conseils tout à l'heure, mais par tous ceux qui les conseillent, des associations, des avocats, etc., pour faire croire à cette rédemption et puis pour faire en sorte qu'ils reviennent. Et ça, c'est quand même assez terrifiant. Ce serait quand même un échec cuisant pour Gérald Darmanin s'il revenait. Je vous rappelle qu'il y a
ce ne serait pas un échec, là. Ce serait l'ultime fiasco. Non, mais
je voulais simplement rappeler qu'il y avait un imam à Brest qui avait été expulsé en 2004 et on s'est rendu compte en 2011 qu'il était revenu subrepticement à Brest aussi. Donc, si vous voulez, c'est pas... tout le monde a crié victoire quand l'imam Majoubi, c'est ça, hein, je ne me trompe pas de nom, a été expulsé. Le problème, c'est qu'il y a parfois un ticket retour et là, c'est très compliqué de l'assumer pour le gouvernement.
Vous parlez des avocats, des associations qui soutiennent ces imams ou ces gens qui sont dans ces cas d'expulsion. Écoutez l'avocate justement de l'imam Ekhoussen qui plaide bien sûr en la faveur de son client.
Si l'enjeu est vraiment la sauvegarde de l'ordre public, eh bien, M. Hassan Ekhoussen est tout à fait prêt à ne plus faire de conférences, à ne plus user de sa liberté d'expression. Il est prêt à retirer toutes les vidéos s'il le faut. Tant qu'il peut revenir en France, être avec ses enfants, être avec sa famille, pays où il est né, où il a grandi, où il a vécu et où il veut mourir et être enterré.
Ah bah c'est formidable.
Bah écoutez, c'est extraordinaire, il a changé.
Il est prêt à plus faire de conférences.
Il a découvert à quel point il aimait la France. C'était quand même un type formidable, sincèrement. Oui. Non mais attendez, l'imam, il est bien...
Oui, au premier degré.
Oui, il est bien là où il est, qu'il y reste. Parce qu'à l'évidence, il n'a absolument...
Non, il n'est pas bien, non. Il a envie de revenir. Mais
il est bien pour nous.
Il est mieux en France.
Pour nous, il est très bien là-bas, qu'il y reste. Parce que quelqu'un qui a tenu ce genre de propos, évidemment, n'a rien à faire en France. Et c'est vrai que...
Et encore une fois, qu'est-ce que ça change? Il y a un symbole, au fait. Que l'imam Ekhoussen, l'imam Majoubi récemment soient expulsés, mais au fond, qu'est-ce que ça change? Tous ces prédicateurs, ils sont sur les réseaux sociaux. La forêt, malgré deux arbres coupés, reste une forêt.
Il y a effectivement les réseaux sociaux où les salafistes, les frères musulmans, etc., sont très présents, sont financés par des puissances ennemies, etc. Mais ces imams-là, il y a le discours qu'ils tiennent effectivement lors des prêches du vendredi, etc., etc. Mais il y a aussi ce qui se passe dans l'arrière-boutique où ils essaient d'endoctriner les jeunes. Et ça, s'ils ne sont pas sur le territoire, c'est plus difficile à faire, voyez-vous, parce que ce qui se passe dans l'arrière-boutique de ces mosquées, etc., moi, je préfère que ces gens-là soient hors du territoire français plutôt que dans leur mosquée en France.
Il se trouve que Gérald Darmanin pense avoir trouvé la solution. Il a déclaré aujourd'hui, on va l'entendre tout de suite, qu'il prône donc la création d'un statut des imams en France. Écoutez-le, vous me donnez votre avis.
Sarkozy avait demandé la même chose.
Avec la fin des imams détachés et l'obligation du lieu de culte d'embaucher l'imam directement et la transparence des financements qui viennent de l'étranger, les imams rentrent dans n'importe quel statut salarié. L'État français exige de personnes qui professent dans des lieux de culte, et notamment venant de personnes qui sont étrangères, et c'est valable pour toutes les religions bien évidemment, des gens qui ont réussi des diplômes universitaires. C'est à la fois un examen de français et à la fois, comme je l'ai dit, des valeurs de la République.
François Calfon.
Oui, c'est effectivement M. Darmanin qu'il faut écouter, parce qu'il y a une succession d'hommes politiques et de ministres de l'Intérieur en particulier qui nous ont parlé de la création d'un islam de France. Et quelque part, d'où ça vient? Ça vient de la construction, dans l'histoire du ministère de l'Intérieur et de la République française, d'un consistoire israélite qui a plutôt très bien fonctionné, puisque dans les synagogues, on fait une prière à la République. C'est quand même tout à fait fort, cette intégration des Juifs dans la République. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça, manifestement, avec ce... putatif islam de France, puisque je ne connais pas le cas de M. Ekhoussen, je connais celui de M. Majoubi. En réalité, il était depuis 40 ans sur notre territoire. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est la sécurité juridique des expulsions. Je ne suis pas sûr que ce qui se passe là aujourd'hui, c'est une plaidoirie, mais sur l'expulsion de M. Majoubi, qui lui-même a des enfants en France, et dont les motifs de l'expulsion sont sur une forme d'atteinte à la sûreté de l'État à travers des propos qui relèveraient de l'apologie de terrorisme, si cela n'est pas constitué, alors juridiquement les choses risquent de... Enfin, M. Darmanin risque tout simplement l'effet boomerang, ce qui serait pas terrible.
Oui, Karima.
Ben, il y a ce dossier, évidemment, sur la question des imams de France. Oui, il y a probablement plus à faire de ce côté-là, mais globalement, quand même, sur ces discours, moi, je pense que ça peut continuer. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait ces mesures, par exemple, d'expulsion. Si on est dans une question d'apologie du terrorisme, si on est vraiment dans des appels à la haine, sur des enjeux de sécurité, effectivement, des Français sur le territoire, ça n'a aucunement sa place. Ça, c'est certain. Et quand même, c'est là qu'on voit que nos sociétés, certes imparfaites, elles permettent quand même, on voit finalement que des personnes hein, qui s'évertuent toujours à critiquer et même à vouloir finalement un peu démolir symboliquement et concrètement nos sociétés, ben finalement souhaitent y revenir. Et c'est le paradoxe de ces sociétés où nous sommes, donc d'état de droit, où on voit quand même qu'il y a certaines failles qui font en sorte que ça se retourne contre elle, hein, que ce soit pour la France ou d'autres pays comme ça. Et c'est ça qui est particulier. Bon. Donc là, on va se servir finalement de la question de la liberté d'expression. On mélange tout, alors que ce n'est pas du tout une question de liberté d'expression.
Les amis, je vais faire une petite coupe dans... Appel à la haine. Je vais faire une petite coupe dans le programme de notre émission ce soir. On va reprendre le fil de nos discussions dans quelques minutes. Et Amaury, vous nous parlerez d'ailleurs de cette affaire très inquiétante d'un collégien de 11 ans. 11 ans, quand on parle des jeunes radicalisés dans notre pays. Là, le cas d'un gamin de 11 ans qui a été arrêté pour des faits d'apologie du terrorisme. Mais il y a une information qui vient de nous parvenir à l'instant. Vous savez qu'Emmanuel Macron tenait une conférence internationale aujourd'hui à propos des enjeux de la guerre en Ukraine. Le président de la République qui vient de déclarer quelque chose qui nous étonne et qui va vous étonner les uns les autres. Il n'est pas exclu à l'avenir, confirme le président de la République, que des troupes occidentales, donc pourquoi pas des militaires français, soient envoyés en Ukraine pour faire la guerre à la Russie. Écoutez Emmanuel Macron.
Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et direct. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Et nous avons la conviction, en effet, que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe.
Raphaël Steinville. Un commentaire. On rappelle que la condition sine qua non depuis 2 ans pour continuer d'aider l'Ukraine, c'est de ne pas franchir cette fameuse ligne de belligérance. Il semblerait que la donne soit en train de changer.
La première chose, il serait intéressant d'avoir quand même un débat à l'Assemblée nationale sur l'engagement de la France avant que Emmanuel Macron s'engage et nous engage tous dans cette voie. La deuxième chose, c'est que...
Alors, rassurons tout le monde, hein. On n'entre pas en guerre demain, il n'y a pas de consensus européen déjà sur cette question.
Au-delà de ces mots très officiels du président, il y a quand même une réalité, c'est que les Occidentaux sont déjà engagés au plus près avec les Ukrainiens. Les Américains, et ça a été révélé tout récemment par le New York Times, a déjà 12 bases opérationnelles en Ukraine. Donc on peut se mentir, on peut se voiler la face, mais la vérité c'est qu'on est déjà très 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 engagé aux côtés
oui, mais vis-à-vis de l'ennemi, entre guillemets, l'implication n'est pas la même. Et le résultat de ce qui pourrait évidemment advenir ensuite ne serait pas le même pour l'ensemble de la population française.
Pourquoi le président de la République...
Faut-il entrer en guerre contre la Russie?
Je vais répondre. Pourquoi le président de la République monte d'un ton? Parce qu'en réalité, l'Ukraine est en train de perdre cette guerre. Et que vous avez un rapport de 1 à 20. Alors, il y a des lignes de défense façon guerre de 14-18 qui font que le front ne bouge pas beaucoup. Mais en réalité, l'Ukraine est en train, pour des raisons démographiques, économiques, etc., et que les Européens la soutiennent. La question qui est posée, et qui est quand même une question centrale, c'est que si elle devait perdre, ce qui n'est pas envisageable pour l'Europe, alors vous auriez à votre frontière européenne, tout simplement, la Russie, et une Russie qui serait plutôt, finalement, extrêmement hostile et à nos portes. Donc nous ne pouvons pas nous permettre finalement que la Russie gagne. Et c'est ce que le président de la République, et moi je partage ce point de vue, a dit. Maintenant la question de la co-belligérance, c'est un effet de tribune, puisqu'il a dit lui-même qu'il n'y avait pas de consensus des Européens, est un pas, et dans
à ce stade, pour cette hypothèse.
Voilà, est un pas, pour l'instant, verbal, mais qui, bien sûr, participe d'une montée de la tension. Je rappelle quand même que les Russes, pendant toutes ces deux ans de guerre, nous ont pas moins que menacés de la guerre nucléaire. Donc on voit que la possibilité de la co-belligérance face aux menaces quotidiennes...
Est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait décider d'envoyer des troupes françaises sur le sol ukrainien pour combattre la Russie sans consulter le peuple français ?
Non, mais c'est ça le sujet. Moi, ce qui me choque un peu dans cette déclaration, même beaucoup, c'est qu'il dit oui, il n'y a pas de consensus européen, mais c'est surtout le consensus français qui nous intéresse.
D'ailleurs, c'est moi qui dis européen, pas de consensus. Je pense que d'ailleurs, au-delà de l'Europe, il y a l'OTAN et d'autres considérations. C'est moi qui ai dit l'Occident.
Et de fait, il y a quand même l'Assemblée, les députés, les institutions françaises qui représentent le peuple français qui doivent décider et pas Emmanuel Macron sur un claquement de doigts qui, évidemment, pourrait envoyer des troupes. De cette façon-là. Alors, vous avez raison, rien n'est décidé. Mais néanmoins, dans les esprits, l'idée les mots, avance.
Et c'est quand même un coup de tonnerre, cette déclaration, parce que jamais il n'a été jusque-là.
Vous dites, oui, l'Ukraine est en difficulté, donc il faut faire quelque chose. Oui, mais qui dit qu'une fois les troupes envoyées, elles ne seront pas aussi en difficulté.
Quand on connaît l'état de l'armée française.
Je crois que c'est le premier président qui n'a pas fait de service militaire. Il me paraît paradoxalement assez va-t-en-guerre.
Oui, Johan Usaï.
Oui,
je disais, c'est vraiment un coup de tonnerre parce qu'en deux ans, plus de deux ans maintenant, puisque l'anniversaire, le triste anniversaire de ce début de guerre, c'était le 24 février, en plus de deux ans, jamais le président Macron et un président occidental, mais vous me dites si je me trompe, n'a émis l'hypothèse d'une réelle entrée en guerre occidentale contre la Russie.
Non, jamais. C'est effectivement la première fois que c'est formulé de cette manière-là. Le chef de l'État, il est le chef des armées, donc la décision lui revient personnellement. Il est le seul à pouvoir prendre cette décision et habilité à le faire. Hein. Donc il n'a pas à consulter qui que ce soit. Il pourrait le faire s'il voulait, mais enfin, vous imaginez s'il faut organiser un référendum. Doit-on entrer en guerre?
Non, mais c'est d'accord, mais il y a quand même des institutions. Il ne s'agit pas d'un référendum. Il y a quand même une assemblée. Vous vous souvenez,
Il est le chef des armées. La décision, il est le chef des armées. La décision lui revient. Mais néanmoins, vous imaginez bien que si la France devait envoyer des troupes en Ukraine, il est évident qu'elle ne le ferait pas seule. Ça se ferait dans le cadre.
Mais il parle dans l'envoi de troupes occidentales. Il parle pas de l'envoi de troupes franco-françaises.
J'entends bien. Très large. Ça ne pourrait se faire que si les États-Unis décidaient de se joindre à cela. Voilà. On sait qu'il va y avoir des élections, etc. Que si Donald Trump venait à gagner, c'est quelque chose qui serait maintenant envisageable. Il y a quand même beaucoup de conditions. Il fait aussi cela, me semble-t-il, pour mettre la pression sur les Occidentaux, pour leur dire tenez vos promesses, parce qu'on n'a livré que 30% des missiles et des armes que nous avions promis de livrer. Et c'est aussi pour cela que l'Ukraine est en difficulté aujourd'hui. Donc ce message du président de la République, c'est de dire attention, si nous, Occidentaux, ne tenons pas nos promesses, un jour peut-être nous pourrions être contraints d'envoyer des troupes. Je crois que c'est un avertissement plus qu'une menace réelle aujourd'hui.
La Russie menace notre sécurité collective, voilà les derniers mots également prononcés par le... Si la Russie menace nos intérêts collectifs, oui, en effet, il faut peut-être entrer en guerre. Si vous êtes d'accord avec ça...
Non pas par souhait d'unanimité sur ce plateau, j'assume souvent la confrontation. Oui, bien sûr qu'il faut un débat de la représentation nationale. Enfin, moi, je pense que c'est tout à fait important.
De toute façon, il est obligatoire, le débat.
Même sans parler de...
Il
faut un débat pour une raison simple.
Oui, parce que...
Attendez. Juste pour essayer de reprendre les éléments. Le deuxième élément, c'est pourquoi Macron hausse d'un ton. Parce que la situation de terrain est en train de changer dangereusement. Donc, par rapport à ça, oui, notre démocratie, oui, le concert des nations doit être impliqué. Mais je le dis aussi, se détourner du regard de l'Ukraine, se détourner du regard de la Russie aujourd'hui, ça n'est pas réglé le problème. Et considérer qu'aujourd'hui, parce que le poulet ukrainien est importé, eh bien, il faut prendre acte de la défaite de l'Ukraine, c'est mettre en cause les fondements même de notre paix en Europe et de l'Union européenne. Et donc, je pense qu'il est plus que temps que, non pas dans l'invective, mais dans un débat raisonnable, nous mesurions, et je crois que vous avez bien fait de le dire, le niveau de soutien indispensable à l'Ukraine, et clairement, il faut monter d'un cran.
Non, mais
Alors, Karima qui a pas dit, qui s'est pas exprimé encore, et puis on continue.
Oui, c'est ça, c'est un avertissement aussi parce qu'on a vu aux États-Unis, on sait que c'est les États-Unis, c'est le soutien, c'est vraiment le pilier. Il y a un certain essoufflement, même on pourrait dire dans l'opinion publique. Hein. Et pour faire voter des budgets maintenant aux États-Unis, pour envoyer des milliards de dollars à l'Ukraine, ça commence à être très compliqué, notamment pour des soutiens des républicains. Donc c'est très compliqué et ça, c'est justement encore plus inquiétant pour les Européens, si les États-Unis décident de dire ben non, finalement, et on verra effectivement lors des prochaines élections, parce que le résultat électoral aura des conséquences sur la suite des choses. Est-ce que ça va être continué à être financé ou non, ou moins, ou est-ce qu'il y aura un agenda, ou en tout cas, on verra. Mais il faut le dire, ça fait 2 ans maintenant aussi. Ça fait plus que 2 ans et ce n'est toujours pas réglé. Et rappelez-vous qu'au départ, on pensait que ça allait être quelque chose qui allait durer, que ça allait se faire assez rapidement. Et on voit que finalement, Vladimir Poutine, la Russie, malgré toutes les sanctions des pays occidentaux, encore une fois, non, ça n'a pas vraiment affaibli la Russie comme l'Occident le pensait.
Qu'on se rende bien compte quand même. Enfin, encore une fois, vous me dites si mon analyse est un petit peu trop... Si je m'emballe un petit peu trop. Mais là, le chef de l'État remet une pièce dans l'idée d'une troisième guerre mondiale, en fait.
Disons qu'il faut arriver à imaginer ce que cette phrase veut dire. Est-ce que on veut que des soldats français aillent mourir en Ukraine? Parce que moi, j'entends dire la seule question, elle est là.
On peut se poser la question de la popularité d'une annonce comme celle-là.
J'entends dire mais on n'ira pas tout seul, on ira avec l'Europe. Pardon, mais les années qui viennent de s'écouler nous ont montré qu'en Afrique, par exemple, quand il s'agissait de s'engager avec l'Europe, c'est la France qui était devant. Les autres lui disaient on vous rejoint, on arrive. Et en réalité, il n'y avait que les troupes françaises. L'Europe faisait la guerre par troupes françaises au sol interposées. Donc, c'est vrai que c'est pas seulement un sujet européen, c'est un sujet proprement français avec des questions concrètes. La guerre, c'est pas une vue de l'esprit. La guerre, c'est quelque chose d'extrêmement précis.
Et puis, il y a du pratico-pratique. Je veux dire, pendant des mois et des mois, on a évoqué ce contexte pesant lorsque la guerre a commencé, cette menace nucléaire qui pointait le bout de son nez d'un côté et de l'autre. Mmh. Et puis, tous ces experts militaires, ces anciens militaires qui nous rappelaient à quel point la France est désarmée. Nous n'avons pas les moyens. Je reprends les mots de certains anciens militaires qui disaient au bout de 2 semaines, on n'est plus rien. On n'a plus de munitions, on n'a plus rien. La France, en 2024, n'est pas en capacité d'entrer en guerre. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je me rappelle de propos de grands militaires.
Quelque part, moi, je trouve que la seule chose qui est salutaire dans cette déclaration, c'est qu'il y ait ce débat. Et ce débat, pas seulement ici à CNews, mais partout. Il y a une prise de conscience à avoir sur le fait, tous les militaires le disent, le temps des guerres asymétriques, notamment en Afrique, il est terminé. On revient dans un temps qui était celui de la guerre froide et donc de la potentialité et dans le dosage d'une guerre de haute intensité. C'est-à-dire qu'on est en train de remonter la garde. En réalité, on le teste déjà, non pas sur les hommes, mais sur le matériel. L'industrie d'armement française est obligée de produire 10 fois plus qu'elle ne produisait les 10 dernières années. On en est exactement là. Et donc la question, elle n'est... c'est terrible, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on peut toujours détourner le regard de ce qui se passe en Ukraine, mais on a réellement, c'est pas une parole de salon ou de meeting, on a réellement une guerre à nos portes que nos alliés sont en train de perdre. Voilà la réalité. Donc la question, elle n'est pas simplement de savoir si des troupes françaises au sol seront envoyées, mais comment... par une mobilisation, vous l'avez dit tout à l'heure, du matériel. Vous l'avez dit également, le risque quand même que les États-Unis, avec l'élection de Trump, se retirent complètement du théâtre européen. Comment les Européens de l'Ouest assurent leur propre sécurité? Et on est complètement dans le contexte par la déclaration du président de la République.
Oui. Emmanuel Macron et les Occidentaux disent maintenant que si Vladimir Poutine devait gagner cette guerre, ils sont convaincus, Emmanuel Macron est convaincu que dans les 5 ou 10 prochaines années, il essaierait
d'envahir
un autre pays. Donc c'est aussi pour cela qu'il faut absolument que la Russie perdre cette guerre, sans quoi, dans 10 ans, ils voudront conquérir un nouveau territoire.
Ça, c'est de la politique fiction.
Non, c'est pas de la politique fiction, pardonnez-moi, c'est extrêmement réel, c'est tout à fait réel.
Ils ont envahi la la Crimée, ils ont envahi la Tchétchénie.
Vladimir Poutine, en 2014, a envahi la Crimée. Cette guerre d'Ukraine, il la prépare depuis une dizaine d'années, c'est certain. La manière dont il l'a préparée, les réserves d'or qui ont été faites, les réserves de munitions qui ont été faites, montrent que Vladimir Poutine sait depuis des années qu'il va envahir l'Ukraine. Pourquoi ne songerait-il pas, s'il gagne cette guerre, à envahir un autre pays? Et effectivement, vous avez raison, dans les prochaines années. Et on a vu aussi, et quand Emmanuel Macron dit la défaite de la Russie est indispensable à la stabilité et à la sécurité de l'Europe, on voit depuis deux ans les conséquences, la déstabilisation effectivement que ça a eu, que cette guerre en Ukraine a eu notamment sur l'économie européenne. Cette guerre a
pour... la guerre en Ukraine a parfois eu bon dos aussi.
Cette guerre...
Elle a parfois eu bon dos aussi pour expliquer certaines carences.
Non, vous ne pouvez pas dire ça. Cette guerre a eu des conséquences économiques.
Je ne dis pas le contraire.
Pour l'Europe, mais pas seulement. Et on ne peut pas, effectivement, une victoire de la Russie serait effectivement quelque chose d'absolument catastrophique pour nous, Européens, particulièrement.
Ce qui est sûr, c'est que sans l'entrée en guerre occidentale et accompagnée des États-Unis, il y a un rapport de force qui est totalement défavorable aux Occidentaux, sans les Américains.
Aux Ukrainiens, en tout cas.
Oui.
Oui, ça c'est vrai.
Oui, c'est une certitude. C'est une certitude de l'Europe aujourd'hui et ça a été...
Donc en fait, la question, c'est est-ce que les États-Unis vont entrer en guerre contre la Russie et donc les petits suiveurs suivront, que nous sommes aujourd'hui.
Mais toute la difficulté aujourd'hui, c'est que les États-Unis...
Pardon, François.
Les États-Unis sont en campagne. Et donc, entre un Joe Biden et un Donald Trump, il n'est pas certain que dans le laps de temps qui court jusqu'à l'élection en novembre, les États-Unis s'engagent davantage qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ça a été rappelé par Karima. Chaque budget pour une aide supplémentaire à l'Ukraine aujourd'hui sont discutés, font l'objet de semaines de discussions avant d'obtenir des accords arrachés aux forceps. Donc je vois mal aujourd'hui les États-Unis s'engager davantage en soutien qu'ils ne le sont déjà de l'Ukraine et encore moins dans l'envoi de troupes dans cette guerre.
Ça semble même impossible parce que dans la mesure où dans la mesure où Joe Biden est en campagne pour sa réélection, un président en campagne pour sa réélection ne peut pas s'engager dans une guerre contre la Russie, en plus qui dispose de l'arme nucléaire, etc.
Bon, fin de la discussion, c'est nul et non avenu alors.
Donc
ce que dit Emmanuel Macron ce soir est nul et non avenu.
L'élection américaine, c'est dans six mois. C'est demain l'élection américaine. Non,
C'est peut-être juste pour faire peur à la Russie, c'est de dire que c'est.
Mais qui fait peur à la Russie?
Mais ça veut dire on est prêt à aller jusqu'au bout pour se défendre.
Mais j'en connais un au Kremlin qui est prêt à aller jusqu'au bout aussi. Hein.
C'est comme le poker, c'est un peu.
Je crois franchement que ça s'inscrit dans le contexte américain. C'est-à-dire que dit Emmanuel Macron et que disent les partenaires européens.
C'est le troisième de suite qui prend la parole à la place de Gabriel. Hein. Donc pardon Gabriel, c'est vous ensuite.
Elle va dire le contraire, donc c'est très bien. C'est important la confrontation.
Bien sûr.
Je crois vraiment qu'il y a une crainte au niveau européen d'un retrait des États-Unis de ce conflit. Et donc, quand Emmanuel Macron monte d'un ton, qu'est-ce qu'il dit à ses partenaires européens? Il dit il va falloir qu'on prenne en charge nous-mêmes notre sécurité collective. Donc il n'y a pas 10 000 moyens de monter la posture. Alors ça, c'est une posture verbale que moi, je ne partage pas forcément. Mais si elle donne l'occasion d'un débat sur comment on fait, pas forcément pour que l'Ukraine gagne, mais que le front soit bien gelé et que la Russie ne gagne pas, ça c'est tout
moi,
à fait.
Moi je pense juste au temps court, là. Je pense au temps très court. Et Gabriel Cluzel, pardon, c'est pas moi qui vais vous empêcher. Je pense au temps très très court. Avec une provocation comme celle-là, Emmanuel Macron, il sait très bien que, évidemment, que le Kremlin entend ce qui est en train de se dire. Et Vladimir Poutine, demain, évidemment que d'une manière ou d'une autre, il va répondre à cette provocation.
Moi, je vais vous dire, je trouve cette déclaration d'une grande légèreté. Alors, vous disiez, on ne suivra que si les Américains embrayent. Donc, on l'a vu, on l'a démontré, les Américains ne vont pas embrayer, ils n'ont aucune raison de le faire. Mais j'ai l'impression qu'ils se croient, que Emmanuel Macron se pense un hubris, ou pense que l'Europe a un hubris suffisant pour aller prendre la place des Américains. Mais c'est complètement délirant. Encore une fois, il faut se rendre compte que la guerre, c'est quelque chose de grave. Nous sommes tous autour d'un plateau à en discuter avec légèreté. C'est extrêmement grave. On a vu que les Ukrainiens.
Non, mais on a.
Pardon, avec légèreté.
Oui.
Moi, je pense aux soldats qui sont morts en Afrique. Je pense à tous ces soldats qui sont tombés. C'est des décisions qui ne doivent pas se prendre à la légère. Quand on voit comment les Ukrainiens peinent à résister face aux Russes, parce que c'est déjà leurs conditions, leurs conditions climatiques, leur pays. Ils ont l'habitude de se battre là-bas. Ils ont une forme de résistance que nous n'avons pas. Moi, je crains que envisager cette perspective soit le début d'une escalade assez effrayante. Hein, pardon, mais j'ai toujours pas compris la démonstration. Je vois pas pourquoi, à part avec des si et des mais, avec des si et des mais, on pourrait mettre Paris en bouteille, selon l'expression consacrée. Pourquoi nous serions obligés de faire la guerre à la Russie? J'ai toujours pas compris. Hein.
Si certains téléspectateurs nous rejoignent depuis seulement quelques secondes, je répète ce que l'on vient d'entendre de la bouche d'Emmanuel Macron à propos de la guerre en Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
C'est plus ambigu que la... Elle laisse par une certaine forme d'ambiguïté cette déclaration, puisqu'il commence par dire...
C'est à la fois ambigu et très clair.
Bon, c'est pas tout à fait... Et puisque dans sa conclusion, enfin, on est obligé d'en faire le commentaire, mais bon, c'est comme ça, c'est l'actualité, il dit la dynamique sur les hommes, le matériel. Donc on revient bien à cette question de l'armement qui semble faiblir.
C'est pas la même chose que le matériel.
Oui, mais en fait, il le dit aussi entre les lignes.
Non, mais si c'est une question de matériel, nous sommes en guerre depuis 2 ans, puisque ça fait 2 ans qu'on envoie du matériel aux Ukrainiens.
Officiel ou non officiel, c'est aussi les personnels instructeurs qui sont, dont certains de puissances étrangères sont déjà en Ukraine, pardon de le dire.
Tout à fait. Dernier mot, il nous reste une minute.
Oui, non, mais ce que ça nous dit, en fait, c'est que les temps sont incertains. C'est une guerre d'usure maintenant. Vladimir ne veut pas perdre. Mais donc, si
Vladimir,
ça continue... Vladimir Poutine.
Ton ami.
Vous le connaissez.
On a des ingérences. Je taquine Karima, bien sûr. Il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, surtout en ce moment. Surtout, évidemment que c'était une boutade.
Non, mais donc, ce que je veux dire, c'est que Vladimir Poutine, on le sait, n'a pas l'intention. Il ne veut pas lâcher un morceau. Il ne veut pas perdre. Et cette guerre d'usure, c'est aussi de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Combien de temps? Là, ça fait 2 ans. Est-ce que les Ukrainiens peuvent tenir des mois, des années? Est-ce que Vladimir Poutine... En fait, Vladimir Poutine, on sait que la Russie, ce qu'elle veut, c'est aller grappiller des bouts de terrain. Si elle n'est pas capable d'avoir l'Ukraine en entier, elle va vouloir essayer de dire, ben non, on va arrêter, mais on va négocier pour des bouts de terrain. Évidemment, l'Ukraine, les alliés occidentaux, il n'en est pas question, mais je pense que cette phrase un peu, effectivement, qui ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations, c'est de dire... On ne sait pas, les temps sont sérieux, les temps sont incertains, mais c'est une guerre d'usure, donc ça peut se prolonger et finalement, l'Ukraine aura probablement besoin de plus de soutien.
Une déclaration du chef de l'État qui ne passera pas inaperçue, évidemment qu'on continuera à la commenter. Vous réentendrez le président avec Simon Guillain dans l'édition de la nuit. Je suis persuadé évidemment que Romain Desarbres et toutes nos émissions à partir de demain continueront de développer cette actualité. On vous en dira plus sur CNews. Il est temps de rendre l'antenne. Merci à tous les 6. On a un peu chamboulé, pardon à Maury. Et vous l'aurez compris que l'actualité nous a rattrapé ce soir. Maxime Fer, Martin Mazur, Coralie Deleplace ont préparé cette émission. On se retrouve demain à Maury. Promis, on vous fera de la place pour cette chronique invraisemblable, cette histoire invraisemblable que vous nous raconterez, donc promis aux téléspectateurs demain. Merci de nous avoir suivis. L'édition de la nuit, à demain pour Soir Info. Bonne nuit.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.